Oscar Miloche, Contes et fabliaux de la vieille Lituanie, les deux frères. Il était une fois un brave laboureur que ses voisins considéraient comme un modèle de toutes les vertus et qui, par souci de perpétuer cette excellente réputation dans sa race, s'appliquait à former l'intelligence et le cœur de ses deux fils d'après les principes qui avaient dirigé sa propre éducation. Lorsqu'il ferma les yeux, les enfants se partagèrent son bien, sans quitter la maison paternelle. Toutefois, après quelques années d'une existence paisible et laborieuse, l'aîné épousa une bonne créature, aussi dépourvue d'argent qu'elle était riche d'heureuses dispositions. Le cadet suivit bientôt son exemple, mais sa femme lui apportait en dot prés et labours, 300 têtes de bétail et une fortune respectable en espèces sonnantes. C'est ainsi que les deux frères, unis par l'amitié la plus tendre, allèrent vivre chacun de son côté. Au Puinet, tout réussissait à ravir. Ils se voyaient d'année en année devenir plus riches, tandis que l'aîné s'appauvrissait jour après jour, si bien qu'il tomba dans une extrême indigence. Sa chaumière ne fut bientôt qu'une masure. Ses greniers se vidèrent de leurs provisions et, manquant d'argent pour se pourvoir de semences, il dut affermer son maigre patrimoine. Il ne lui restait plus qu'un petit potager qu'il laissa en friche, n'ayant pas d'instrument pour le labourer. Très résigné, et assez timide de sa nature, il alla cependant un beau matin frapper à la porte de son frère et le prier de lui donner un couple de bœufs et une charrue pour lui épargner la honte de la mendicité. Le Richard lui prodigua 1000 caresses, le gronda d'avoir si longtemps gardé le silence et le pria avec des larmes dans la voix d'aller incontinent à la ferme pour y prendre tous les objets dont il manquait à la maison. En dépit de ses scrupules, le pauvre diable ne se laissa pas dire deux fois. Mais, en passant près des étables, il s'entendit interpeller par un gros garçon de ferme à l'air réjoui, aux pommettes rouges et luisantes, et dont l'élégance dominicale contrastait singulièrement avec la fourche qu'il tenait dans ses mains blanches et potelées. Où que vous allez comme ça? Cherchez les bœufs dont votre maître vient de me faire cadeau. Ah, la bonne farce! Et vous croyez que je vais couper? Qui donc êtes-vous pour ne pas obéir aux ordres de votre patron? Qui je suis? Mais vous ne m'avez donc pas regardé? Je suis son bonheur, pardi. Ah, bah, puisque vous êtes son bonheur, vous pourriez peut-être me dire où est mon bonheur à moi. Pour sûr que oui, et il n'est pas bien loin. Seulement, il faut avoir du flair et savoir le reconnaître, et aussi le traiter comme il le mérite. Vous voyez ce bouquet d'arbres là-bas? Allez-y. Vous le trouverez au pied du vieux bouleau. C'est un champignon vénéneux, votre bonheur, un propre à rien. Un tumouche, une fausse orange, comme l'appelle sans façon monsieur le curé. Mais si vous lui donnez un bon coup de bâton sur la partie charnue de sa tige, laquelle est, sauf votre respect, son derrière, il sautera en l'air et en retombera sous la forme d'un grand gars à veste rouge avec de gros boutons blancs. Et maître Colas éclata de rire en soufflant comme un bœuf et en se tapant les côtes comme font les oies au moment du gavage. Son mélancolique interlocuteur partit comme un trait dans la direction du bocage, sans même s'occuper du beau présent qu'on venait de lui faire. « Attends un peu, » marmottait-il entre ses dents, tout blanc de colère et en serrant son bâton. « Je vais te montrer un peu de quel bois je me chauffe. » Sous le bouleau argenté, le tumouche bâillait bêta. Le tue-mouche bâillait béatement aux corneilles, environné de rondes d'insectes qui lui lançaient des regards narquois, et n'avait garde de se poser sur son pourpoint d'écarlate. Un coup de gourdin, vigoureusement appliqué, fit voler en l'air et tournoyer bêtement notre gredin, tout à coup métamorphosé en un escogriffe revêtu d'une aveuglante livrée. Maroufle, hurlait son minable maître, pendant que le bonheur de mon frère, le pauvre malheureux, remue poudre et fumier, ciel et terre pour remplir ses greniers et sa bourse, toi, tu passes ton temps à échanger des lazzis avec les mouches. Et à qui la faute, grand dadais que vous êtes, répliqua le sylvestre empoisonneur. Tandis que le brave paysan ouvrait de grands yeux en s'appuyant des deux mains sur son bâton. Oui, je le répète, à qui la faute? Croyez-vous donc que moi dont les existences antérieures se sont écoulées à la cour des Mithridates et des Borgias, savez-vous seulement qui ils étaient, ces gars-là? Je vais servir un pauvre innocent qui cultive choux, raves et citrouilles. Que faut-il donc, bon Dieu, que je fasse pour me concilier vos bonnes grâces? Murmura tout interloqué l'homme au potager. Ce qu'il faut que vous fassiez, mais rentrez donc en vous-même et dites-moi si votre destin n'y est pas clairement écrit. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est bien simple. Votre bonheur exige que vous alliez vous établir épicier à la ville voisine pour y empoisonner les braves gens. Et le scélérat, d'ordinaire muet, par paresse de corps et d'esprit, ouvrait pour respirer son pourpoint couleur d'enfer, en semant dans l'herbe quelques gros boutons de nacre mal cousus. Le fermier malchanceux retourna gaiement à la maison et présenta son écarlate démon à sa femme, en murmurant « Le Rubicon, comme dit l'autre, est franchi. Le sort en est jeté, tant pis pour la clientèle. » L'honnête petit potager fut vendu dès le lendemain. Et peu après, toute la famille, précédée du garçon épicier porte-bonheur, prit le chemin de la ville, où l'attendait un magasin nouvellement acheté, dont l'enseigne fort originale portait en grosses lettres rouges parsemées de petits points blancs ces simples mots « Alimentation générale ». La caravane n'avait pas fait 20 pas quand son chef, le nouvel épicier, entendit un sifflement plaintif dans la poche de son surtout. Il y porta la main et en retira un petit personnage dont la mise et la physionomie rappelaient, à s'y méprendre, un rat des champs. À qui ai-je l'honneur? Hélas, je suis votre porte-malheur, monsieur. Ne me chassez pas. Je vous suis tellement attaché. J'étais si heureux chez vous. » L'épicier, sans dire mot, retourna à la porte de sa chaumière, creusa un trou sous le seuil et y enterra vivant son détestable petit passé d'agriculteur. Quelques semaines suffirent à la modeste épicerie pour devenir le magasin le plus achalandé de la riche et illustre cité. À l'exception des ersatz qui, du plancher au plafond nouvellement repeint, égayaient de leurs boîtes à étiquettes multicolores les étagères touffues, tout y respirait la probité et la fraîcheur. Un étal de poissonnerie envahit bientôt le trottoir. C'était la seule partie du magasin où le client intuitif ne se sentit saisi d'avance de nausées, de crampes et d'étourdissements. Autour du tue-mouche, vendeur d'une habileté sans égale, tourbillonnaient à présent des essaims de petites servantes qui, certes, le trouvaient venimeux, mais qui attachaient à ce qualificatif un sens que seuls saisiront les pionniers de la repopulation et sur lequel nous nous garderons bien d'assister. Certains jours, l'épicier et son génie familier virent apparaître sur le seuil du magasin un vieux pêcheur qui n'était pas leur fournisseur ordinaire et qui portait dans ses bras un énorme brochet. Après quelques marchandages, le monstre passa des mains du vieillard dans celle de la fosse orange, pour tomber peu après sous le couteau de l'épicière dont on fêtait justement le jour de naissance. Le ventre du requin d'eau douce ne fut pas plus tôt ouvert qu'il s'en échappait un diamant aussi gros qu'une noix et coloré de tous les feux de l'arc-en-ciel et de la rosée. Passé le premier émoi, le mirifique objet fut placé dans la vitrine entre un flacon de chartreuse de Souabe et une bouteille de vin de Bordeaux venue en droite ligne du Caucase. 8 jours après, il était acheté par le riche boyard Silbersteinas et le produit de la vente employé en partie à l'agrandissement de la maison mère et à la création d'une succursale à Memel faisait bientôt de notre ancien cultivateur famélique un surépicier dont la valeur se laissait difficilement exprimer en dollars ou en livres sur les marchés d'outre-mer. Quelques envieux affectaient de ne reconnaître dans ses triomphes qu'un jeu de l'aveugle fortune. Mais il lui suffisait, pour leur donner la vraie mesure de ses aptitudes, de commencer ou de finir une phrase quelconque par les mots « commercialement parlant », car il les prononçait avec une autorité et un arrondissement de tout son être qui en eussent imposé à Mercure lui-même. Il tombait de sa bouche comme d'énormes balles de marchandises, et l'accent magistral qu'il y mettait entra pour autant que ses richesses elles-mêmes dans son élévation à la dignité de prévôt des marchands. Il exerçait depuis un mois à peine ses hautes fonctions quand il se vit appelé par sa corporation à juger son propre frère, accusé d'avoir jeté sur le marché de la ville une grande quantité de lin dont l'examen après-vente révéla la préparation illicite. Monsieur le prévôt visita dans son cachot le pauvre diable, victime de la fourberie d'un régisseur, racheta très cher la marchandise falsifiée et pour le consoler et le réhabiliter aux yeux de ses concitoyens, le fêta avant son départ en un banquet qui réunit toutes les notabilités de l'endroit. De retour à sa ferme, le cultivateur s'empressa de raconter à sa femme sa mésaventure, ainsi que le changement prodigieux qui s'était accompli dans la condition de son frère. La fermière, élevée dans l'aisance au sein d'une famille qui n'avait jamais connu les vicissitudes de la fortune, voyait d'un fort mauvais œil les réussites d'autrui et dissimulait, sous un attachement outré aux préceptes moraux dont on l'avait nourri dans son enfance, une inclination des plus marquées à la médisance et à l'envie. Son mari connaissait de longues mains ce fâcheux travers. Pour dissiper ses soupçons, il lui révéla ce qui s'était passé entre son frère et le petit sorcier malfaisant à figure de rat. La pauvre créature, excellente épouse et mère, ne manquait ni de jugement ni de piété. Cependant, elle se laissa emporter par son mauvais penchant et courut à la cabane jadis habitée par son beau-frère. Quelques coups de pelle lui suffirent pour rendre la liberté au rongeur maléfique qui, depuis des années, se morfondait dans son trou. En apercevant la clarté du jour, il siffla doucement, ôta son bonnet de fourrure, essuya un pleur que l'émotion faisait jaillir de ses petits yeux injectés et remercia en ces termes sa libératrice. « J'ai maint défaut, madame, je le confesse, mais il n'est pas, sur la machine ronde, de créature plus reconnaissante que moi ni plus fidèle. Vous aurez en moi un serviteur des plus dévoués. Votre ruine et celle de votre mari est, croyez-moi, assuré. Vous pouvez donc, d'ores et déjà, faire vos adieux à tout ce qui faisait votre joie et votre bonheur en ce monde. Je ne vous donne pas 2 mois pour mériter la compassion de la créature la plus malheureuse et la plus méprisée de la terre. Pour ce qui est de vos enfants, il n'est pas en mon pouvoir de m'immiscer dans leur destinée. Ils seront libres de gagner leur pain à la sueur de leur front. nous avons le regret d'informer le lecteur que cette sinistre prophétie s'accomplit à la lettre.